Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens.
Bonjour à tous, bienvenue dans Politique sous influence, l'émission qui vous explique comment les réseaux sociaux m'influencent, vous influencent, nous influencent, influencent aussi Juliette Briens et Véronique Raïssoult, la présidente et fondatrice de Backbone Consulting qui m'accompagne. J'en ai beaucoup de chance, donc bonjour à vous mesdames.
Bonjour Guillaume.
Je suis en minorité comme d'habitude. Cette semaine, au menu, une cinéaste qui en pince pour les rodéos urbains. Cette semaine aussi, après Dupont et Dupont, Tintin, vous connaissez, vous allez découvrir Rousseau et Rousseau, les homonymes aux législatives. Et puis les NUPS ont plus d'un tour dans leur sac pour faire pièce à la combo burkini topless de Grenoble, puisque les NUPS viennent d'inventer le barbecue halal vegan. Et oui, il suffisait d'y penser. Et puis les réseaux buzz aussi, pas mal, autour de l'abolition de la fête des mères, rebaptisée fête des gens qu'on aime. On va également vous dire, dans Politique sous influence, que pensent les réseaux de la discrimination idéologique à l'embauche subie par une candidate à un emploi à l'Opéra de Paris. Et cette semaine, on se demandera également ce qu'il faut penser du tribunal des réseaux sociaux. N'est-ce pas eux qui avaient déjà jugé Damien Abad? Et puis la gestion de la crise gouvernementale pour sauver le soldat Abad a-t-elle convaincu les réseaux? On en parlera avec la philosophe René Frégosi. On va aussi forcément revenir sur la tragédie qui a endeuillé le Texas, les États-Unis, voire le monde. Et vous allez voir qu'avec elle, que cette tragédie n'est pas sans lien avec les réseaux sociaux. On en parlera avec notre second invité, l'avocat, le président de France-Amérique, Jean-Claude Beaujour. Du rire, des larmes, des réactions sans filtre, de la réflexion, du recul. C'est sur Sud Radio que ça se passe. C'est Politique sous influence. Voilà, c'est parti pour les buzz de la semaine. Alors Juliette, on commence avec vous, Lola et les rodéos sauvages, avant de revenir sur ce sujet. D'abord, peut-être une petite incise sur le Festival de Cannes. On a la furieuse impression que les réseaux sociaux ont mis un peu la main sur le Festival de Cannes. Je signale que c'est Brut et France Télévisions désormais qui ont la main sur le Festival de Cannes et plus Canal+, et que Brut, c'est un pur player, mais il y a aussi pas mal d'influenceurs, d'influenceuses à Cannes, c'est ça ?
Il y a des influenceurs et des influenceuses, comme il y en a toujours eu, j'ai l'impression. Petite différence cette année, on a quand même TikTok, réseau social préféré des jeunes, qui a créé une nouvelle catégorie du Festival de Cannes qui s'appelle le TikTok Short Film. Et voilà, que le meilleur gagne. Mais effectivement, les réseaux sociaux font leur entrée au Festival de Cannes.
Mais le premier film de la semaine, c'est pas un film dans la catégorie TikTok.
Non.
C'est un film, un vrai film.
Oui.
Voilà, qui s'appelle Lola et les rodéos sauvages.
Ça s'appelle pas du tout comme ça.
Ah bon, pas du tout.
Non, mais est-ce que vous avez déjà pratiqué la bike life, Guillaume?
Mais j'ai eu une bike life avant vous, qu'est-ce que vous croyez?
Sachez que les riders de la bike life sont mis à l'honneur cette année à Cannes grâce au nouveau film de Lola Kivoron qui s'appelle Rodéo.
Ah.
Voilà. Parce que oui, la bike life, en fait, ce n'est ni plus ni moins...
Parce que Lola et les riders, ça faisait un petit peu...
Ce n'est ni plus ni moins que le dernier terme à la mode pour euphémiser un triste phénomène bien connu en France, les rodéos sauvages. Le buzz est apparu lorsque Combini, que l'on connaît bien ici, a publié une interview de la réalisatrice qui, non contente de poétiser ce street phénomène, tient des propos qui ont laissé les internautes pantois.
C'est une pratique assez mal comprise, que tout le monde dit que ça fait du bruit, mais c'est intéressant de se dire genre comment tu t'empares du bruit pour te faire entendre aussi. Faire du bruit, c'est quand même justement se rendre visible aux yeux de tous, quoi. On parle de rodéo urbain, rodéo sauvage, c'est pire, parce qu'en plus ça fait penser à ensauvagement, donc là on a envie de rayer à fond ces idées, ces imageries, qui sont des imageries complètement réactionnaires. Et en fait, la pratique, elle est criminalisée à mort, parce qu'elle est illégale et qu'il y a eu des accidents, mais surtout les accidents, ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse et qui créent une forme de précarité qui pousse les riders vers la mort, en fait, concrètement.
La faute de la police, donc. Lorsqu'en 2014, à Sevran, un enfant de 12 ans est mort sous les roues de ses athlètes, c'était la faute de la police. Lorsqu'en 2019, en août, un de ses riders a plongé un enfant de 9 ans dans le coma à Chaudron, c'était la faute de la police. Et il y a 4 jours, lorsqu'un enfant de 5 ans a fini à l'hôpital avec des blessures au visage parce que ses joyeux lurons jouaient à Fast and Furious dans les rues de Pantin, là aussi, oui, c'était bien la faute de la police. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, les internautes ne sont pas nombreux à partager cette fascination pour ces bad boys à deux roues.
Les réseaux sociaux partagent pas trop cette fascination.
Non, pas très.
Peut-être parce que contrairement à Lola, tout le monde n'a pas eu la chance de vivre et naître dans les beaux quartiers de Paris, préservé du bruit assourdissant et du danger permanent que représentent les rodéos urbains pour des milliers d'habitants du quartier. En tout cas, si le jour arrive où Lola se retrouve victime d'un rodéo, fauché par la bécane d'un de ses riders, on suppose bien sûr que ses amis se garderont bien d'appeler la police pour ne pas risquer de causer de nouvel accident.
Disons, Juliette, que Lola Kivouron, c'est le nom de cette réalisatrice, avec son côté un peu provocateur. Il y a vraiment, plus c'est gros, plus ça passe. C'est peut-être inspiré du rôle modèle de toutes les bourgeoises rebelles de sa génération. J'ai nommé la seule, l'unique, l'inimitable Sandrine Rousseau, toujours prête aux plus vertigineuses roues arrière idéologiques. Sandrine Rousseau, en général, n'en rate pas une pour faire parler d'elle. Mais là... Oui. Elle a créé le buzz sans rien dire. Expliquez-nous.
C'est anecdotique, mais c'est tellement drôle. On se dit souvent que le hasard n'existe pas, mais franchement, le destin, il semblerait, a bien fait les choses. En fait, vous savez que notre écologiste préférée, donc Sandrine Rousseau, elle est candidate aux législatives dans la 9e circonscription de Paris. Mais ce que vous ne saviez pas...
Sous la bannière NUPES.
Voilà, NUPES.
NUPES,
ça dépend de chacun. Voilà. En fait, l'adversaire de Sandrine Rousseau s'appelle aussi Sandrine Rousseau.
Donc ça veut dire qu'on a deux Sandrine Rousseau pour le prix.
Exactement, deux Sandrine Rousseau. Il y en a une que l'on ne présente plus, mais l'autre, on ne la connaît pas, c'est une novice de la politique. Et elle se présente sous la bannière du mouvement de la ruralité, qui est en réalité l'ancien chasse-pêche nature et tradition. Ah, et donc elles n'ont rien à voir l'une à l'autre. Et en fait, je vous révèle un petit secret, ce n'est pas du tout un hasard. En fait, tout était prévu. Cette Sandrine Rousseau, elle a été parachutée là par le mouvement de la ruralité pour essayer justement de créer le buzz et de tenter un coup de com' pour contrer justement la candidate.
Il y a des crimes prémédités, mais là, c'est un buzz prémédité.
Que la meilleure Sandrine gagne.
On lance un appel aux deux Sandrine Rousseau. Venez ici buzzer avec nous.
Voilà. Et oui, il y a un autre buzz. Alors, encore chez NUPES. Très original, cette semaine, ils ont eu l'idée, à ne pas manquer, hein, d'organiser un pique-nique militant à Saint-Denis, sous le patronage d'Éric Coquerel. Mais là où ça devient intéressant, c'est que sur l'affiche, il est précisé que le barbecue sera à la fois halal et végétarien.
Ah, c'est bien ça.
Mais quid du cachère, Guillaume ?
Bah, vous savez, cachère halal, ça peut marcher, parce que les rites d'abattage sont assez proches, mais je pense que cochonaille halal, ou alors steak hindou, vous savez que les hindous considèrent que la vache est un animal sacré, ça va pas marcher. On pourrait imaginer aussi que les NUPES fassent par exemple un happening de pâtisserie pour diabétiques, ou une jeune venture entre amateurs de narguilé, association anti-tabac, ou alors pourquoi pas concours de rodéo urbain sous l'égide de la sécurité routière, ou team building entre pyromanes et pompiers. Je pense que ça, c'est encore une idée NUPES.
C'est une idée. Bon, autre buzz. Alors, là, attention.
Attention.
La société progresse en ce qui concerne l'inclusivité. L'inclusivité de tous, pour tous, par tous.
Mais pas partout. Pas pour tous non plus.
Et notamment au sein de la famille. Les familles homoparentales, monoparentales et transparentales. On en parle, mais il y a encore du chemin à faire. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a en France, en 2022 encore, un jour où l'on célèbre les mères. La fête des mères. Vous imaginez l'oppression? Eh bien, c'est ce dimanche, c'est demain. Mais cette année, certaines écoles ont décidé de mettre un terme à cette insupportable exclusion.
Ah oui, hein.
Pour inclure, on a d'abord pensé à la fête des parents. Mais là encore, le problème apparaît. Que faire des enfants qui vivent en famille d'accueil ou chez leurs grands-parents? Non, décidément, l'inclusivité est une science et on n'en fait jamais assez. Finalement, la solution a été trouvée. Pour ces élèves qui auront la chance d'être instruits par des enseignants un peu moins monstrueux que les autres, on fêtera désormais la fête des gens qu'on aime. Bon, là, c'est parfait. Enfin, presque, juste au cas où, pour ne pas risquer d'exclure les enfants psychos et sociopathes, car il faut aussi penser à eux,
oui,
certains profs ont décidé de carrément tout supprimer. Voilà, comme ça, tout le monde est content, ou plutôt tout le monde est puni, mais ça dépend de son niveau d'éveil.
Je sens qu'il y a encore du chemin à faire pour vous éveiller, pour vous wokiser complètement, Juliette. D'ailleurs, je vous déconseille de vous porter candidate à l'Opéra de Paris, parce que je crois que c'est pas très très bon pour les gens qui critiquent les woke, c'est ça ?
Ouais, c'est le dernier buzz de la semaine, c'est cette jeune femme, Adélaïde, 23 ans, qui a été recalée à son entretien pour avoir eu l'audace d'avoir effectué un stage pour le magazine Valeurs Actuelles. Ça s'est passé à l'Opéra de Paris, on écoute son témoignage.
J'ai envoyé mon CV par hasard à l'AROP, qui est l'association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris. La responsable m'a répondu très rapidement. Elle m'a jamais dit vous n'êtes pas compétente, et en fait elle a embrayé sur en fait moi le problème c'est votre CV, est-ce que vous êtes consciente que vous avez travaillé dans de la presse d'extrême droite, et elle me dit qu'elle a montré mon CV à son équipe, donc à toute son équipe, et son équipe aurait dit en fait ça nous dérangerait de travailler avec quelqu'un qui sort d'extrême droite. Parce que cette personne ne pourrait pas travailler en équipe, aurait du mal à communiquer et à défendre la ligne diversitaire de l'Opéra de Paris. Là, elle m'a dit, et d'ailleurs c'est clairement de la diffamation, elle m'a dit avec un grand sourire narquois, « Mais madame, le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. »
Bon. Oui, mais c'est-à-dire qu'à la différence du temps jadis où il y avait de la rééducation idéologique, tout n'était pas perdu. Là, apparemment, les anti-woke ne sont même pas rééducables, c'est ça. Parce qu'ils auraient pu lui faire lire du Papendaï ou du Malcolm X. Ou, alors, peut-être pas du Greta Thunberg, parce que je pense qu'elle n'a rien écrit, mais ils auraient pu lui peut-être essayer de l'ouvrir mais un peu.
Il y a un côté un peu paradoxal dans cette histoire, et elle le dit d'ailleurs, cette jeune femme Adélaïde, c'est parler d'inclusion tout en excluant.
Ah, ça c'est fantastique.
Ce que je veux dire, c'est exclure une personne pour ses opinions.
C'est l'inversion du vocabulaire, effectivement.
Ça, on a entendu parler ça sur les réseaux sociaux, parce que ça a bien buzzé hier, quand même. Hein.
Oui, ça a bien buzzé. C'était pas forcément le sujet qui a le plus buzzé, mais oui, ça a buzzé. C'est les paradoxes.
Sandrine Rousseau vs Sandrine Rousseau, on en a entendu parler.
Plus buzzé, d'abord parce que c'est pas si anodin. La ruralité dans Paris et le choix de cette candidate, certes, c'était pas par hasard parce qu'elle n'est pas du tout parisienne, elle vit en Normandie. Mais globalement, oui, ça a plus fait parler parce que c'est le côté ancienne politique. D'ailleurs, sur cette 9e circo, qui est sans doute une des circos gagnables, Sandrine Rousseau ne devait pas être là. Donc, en fait, tout ça a beaucoup fait parler. Donc voilà, l'autre sujet qui a beaucoup fait parler, je crois que vous en parlerez tout à l'heure, c'est le sujet de la NRA, un petit sujet aussi sur Monsieur Boutier. Donc globalement, on va dire que oui, on en a parlé, mais ça n'a pas monopolisé les réseaux sociaux. Et Cannes, vous en avez parlé rapidement, a plus fait parler, peut-être parce qu'il y a plus de rêves, ou peut-être parce que les gens ont plus envie de cette histoire-là que de rentrer dans des débats entre... ACV, une inclusion, une expulsion ou un rejet.
On met la politique de côté, mais l'émission s'appelle Politique sous influence. Hein.
La politique est partout.
Il faut politique et réseaux sociaux. Hein.
Alors, Cannes, justement, comment les réseaux ont plutôt bien accueilli le fait que Cannes s'ouvre à cette culture de la.
Oui, en fait, ils l'ont bien accueilli
du
parce
format
que
court, on
les,
dire.
Voilà, les réseaux sociaux étaient à Cannes depuis longtemps. Enfin, c'était déjà Cannes et c'était un lieu où on partageait les images qui étaient fournies par Cannes. Là, ce qui change, c'est que maintenant, les réseaux sociaux sont à Cannes. C'est eux aussi qui relaient
c'est
les images.
Font Cannes, presque,
et d'ailleurs, l'interview dont vous parliez sur Combiné a fait plus de 2,2 millions de vues, ce qui est quand même assez impressionnant.
Mais alors, sur quoi? Parce que Combini, ils sont partout. Ils sont sur Instagram, ils sont sur Twitter, ils ont un site, ils sont sur YouTube. Donc en tout.
Ce chiffre-là est celui qui s'affiche quand vous regardez la petite capsule qu'ils ont fait sur l'interview de la bikeuse ou bikeuse life,
la bike life,
ou je sais pas comment ça se dit. Et donc en fait c'est le cumul sur l'ensemble de ces réseaux parce qu'il ne faut pas croire que les canaux sur les réseaux sociaux sont toujours en parallèle et ne se parlent pas. Par exemple, une vidéo sur TikTok va être reprise après sur Twitter ou sur Facebook. Ça devient presque une plateforme de contenu. Donc, globalement, on peut cumuler l'ensemble des vues avec la même vidéo.
Bon, en tout cas, ce sont les nouveaux journalistes, les nouveaux reporters sur place, effectivement.
Ce qui est intéressant aussi, c'est cette inversion de vocabulaire. Il faut toujours tendre l'oreille et prêter attention au vocabulaire. Là, c'est au nom de la diversité qu'on exclut finalement. Et il faut le dire d'ailleurs, c'est vraiment interdit par la loi, la discrimination à l'embauche, au titre de la race, au titre des opinions politiques. Strictement interdite par la loi. Mais c'est au nom de la diversité qu'il y a vraiment une interdiction de la pluralité d'opinion. Un peu comme, vous savez, les plans de licenciement s'appellent plans de sauvegarde de l'emploi. Ou ce terme absolument stupéfiant de sans-papiers. On a l'impression qu'on a volé les papiers aux gens qui n'ont pas de papiers. Enfin, c'est complètement fou. Alors ce qui est intéressant, c'est donc l'inversion du vocabulaire. Est-ce que les mots ont encore un sens, par exemple, innocent, coupable, mise en examen, rumeur Le cas Abad, je pense, est à cet égard très éclairant. Qui fait la loi? Qui fait et défait les réputations? Les juges, les gardiens de nos libertés ou les réseaux? On en parle avec la philosophe René Frégosi qui va nous éclairer juste après. Restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briasse.
Bonjour René Frégosi.
Bonjour.
Bienvenue dans Politique sous influence. Vous êtes philosophe, politologue, vous avez notamment écrit un livre au titre provocateur qui dit beaucoup de votre liberté de ton et de réflexion, peut-être aussi beaucoup de votre discernement. Pourquoi je n'ai pas fait carrière au Parti Socialiste? Alors vous savez, moi je suis pas catholique, mais si j'étais catholique, beaucoup vous serez pardonné, je vous donnerai l'absolution. On va parler avec vous plus sérieusement du soldat Abad, du déchaînement d'une espèce de meute, ce que Madame Alonso aurait appelé elle-même des chiennes de garde, du nom de son association, contre ce ministre fraîchement nommé au gouvernement. Mais avant cela, je voulais demander à notre spécialiste des réseaux, Véronique Reissoult, la présidente et fondatrice de Backbone Consulting, ce qu'elle pense de la gestion de crise du gouvernement pour sauver le soldat Abad et même de la réaction des réseaux à ce sujet.
Alors on va dire que ça a déchaîné évidemment les réseaux sociaux dans les premiers jours. La communication du gouvernement était plutôt juste parce qu'ils ont commencé par ce qui n'est pas négociable, qui est la parole des femmes doit être préservée, doit être accompagnée. Après, ils sont partis sur un sujet qui est, eh bien, pour préserver ce sujet, c'est la justice qui doit aider. Le cadre de la justice est indispensable et nécessaire. On va dire que globalement, leur communication était plutôt juste, d'autant que, en parallèle, M. Abad lui-même s'est expliqué, est revenu sur la réalité de son handicap, donc ça a créé quelque chose de plus complexe, ça a permis de regarder la situation avec un peu plus de recul. Finalement, le seul faute de quart, si on peut dire ça ainsi dans cette communication, c'est le fait qu'ils aient nié
être
au courant, alors que de fait, ils l'étaient. Il y avait eu deux plaintes sans suite. Qui datait d'il y a quelques temps, qui n'empêchait pas en soi une nomination au gouvernement.
Et donc, bon. Et ça, les premières phrases prononcées par Madame Borne, je ne mentirai pas.
Voilà. En français. Ouais, donc c'est le seul point où on peut se dire que voilà, dans la précipitation, il y a eu quelques erreurs, sachant que c'était pas forcément elle. D'ailleurs, c'était Matignon en soi qui a donné cette information. Ils sont revenus dessus d'ailleurs en disant non, on était au courant pour les deux plaintes. Par contre, ils n'étaient pas au courant du témoignage qui a été partagé par Mediapart le soir même de la nomination. Et là, c'est un autre sujet. Effectivement, ils n'étaient pas au courant. Et le renvoi sur la notion de justice était intéressant parce que finalement, tous ces sujets sont très complexes. Personne ne dit qu'il ne faut pas faire attention à la parole des femmes, bien évidemment, et des victimes globalement. Mais c'est un sujet difficile, compliqué. Et on l'a vu d'ailleurs tout au long de cette polémique et de ce sujet. C'est relativement compliqué de comprendre ce qui peut se passer entre deux êtres humains. C'est relativement compliqué de comprendre jusqu'où il y avait, on va dire, des messages qui étaient plus que déplacés. Mais effectivement, le sujet du handicap de M. Abad a fait que même sur les réseaux sociaux, là, depuis jeudi, le sujet est moins commenté. On commente toujours les sujets de harcèlement. On commente bien évidemment le fait qu'il n'est pas question qu'un homme puisse forcer une femme, ou même globalement qu'un homme puisse forcer qui que ce soit. Mais ce handicap met en perspective une situation qui est beaucoup plus complexe. Et là, pour le coup, c'est la justice qui doit trancher parce qu'ils ont les moyens de poser des questions, d'enquêter. Et puis, c'est leur rôle de trancher et de protéger les citoyens.
Pour vous, René Fregosi, cette attaque contre Damien Abad n'était pas simplement un coup bas assez classique en politique. Comme par hasard, l'attaque vient au lendemain de sa nomination.
Oui, bien sûr, c'est ça qui est choquant, en fait. C'est toute cette parole qui se libère, entre guillemets, à des moments bien précis, au moment le plus opportun ou inopportun, ça dépend de quel côté on se place. Effectivement, c'est cette instrumentalisation, en fait, de ces plaintes qui ont été déposées ou qui ne l'ont pas été, qui ont été déboutées ou pas. Effectivement, bien sûr que ces questions de harcèlement et a fortiori de viol, si viol il y a eu lieu, sont des questions extrêmement complexes, mais en effet, qui doivent être traitées par la justice. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait dépôt de plainte auprès de la justice. Or, en l'occurrence, il y a peut-être eu des mots déplacés, c'est probable, c'est possible, bon. Mais en tous les cas, il y a eu une plainte, il n'y a pas eu de suite. Donc, l'affaire est classée normalement.
Et au fond, il fallait pas s'en tenir à la jurisprudence Balladur, c'est-à-dire quand un ministre est mis en examen, il quitte le gouvernement tant que son affaire n'est pas réglée. Là, finalement, on a envisagé, il y a eu une pression en ce sens pour que M. Abad soit sorti du gouvernement, mais ça fait écho directement à la situation de M. De Rugy.
Oui, parce qu'en fait, là, se mêle...
Parce que M. De Rugy n'est pas mis en examen, il est parti, lui, pour le coup.
Oui, lui, il a démissionné. Mais ça, c'était son problème, je dirais. C'est vrai, sous la pression...
Des réseaux, notamment.
Des réseaux, effectivement. Mais vous voyez, pour cette question de M. Abad, en fait, on mélange beaucoup de problèmes. Enfin, se mêlent beaucoup de problèmes. Il y a la question politique. La question de tactique politique, de riposte politique à une attaque à un moment donné, effectivement, mise en place d'un gouvernement, ça c'est une chose. Mais on parle aussi en même temps du fond, c'est-à-dire le problème des relations entre hommes et femmes, le problème du harcèlement, le problème du viol, de l'agression sexuelle, etc. Donc tout se mélange, je crois qu'il faut serrer un petit peu les problèmes. Alors, pour ce qui est de la réponse politique, effectivement, moi je pense que il serait raisonnable, un, de s'en tenir toujours à la même ligne. Or, ce n'est pas le cas.
C'est ça.
Donc ça, ça pose problème.
Il y a même du en même temps, René Frigosi, avec M. Dupond-Moretti, par exemple, on ne comprend pas.
Exactement.
Qui, lui, pour le coup,
alors,
est, mis en
qui est mis en examen.
Tout à fait.
Lui, il reste, et l'autre, il n'est même pas mis en examen, et il est question qu'il parte.
Voilà, donc là, il y a une incohérence qui,
ah,
est,
en même temps.
Qui est insupportable. Mais bon, le en même temps est souvent,
de
est,
droite
est souvent
ici,
insupportable,
temps, c'est,
effectivement.
C'est le nouveau monde.
Mais donc, la question politique, c'est une chose, et elle est, à mon avis, elle a été plutôt mal gérée, en fait. Mais parce que, effectivement, soit ils étaient au courant, et tout ce qui devait être le cas, de ces plaintes qui n'ont pas eu de suite judiciaire.
Tout en sachant que l'affaire pouvait remonter médiatiquement.
Exactement.
Et
à ce moment-là, s'ils étaient au courant, ils auraient dû réagir tout de suite en disant « Mais oui, mais c'est une affaire classée. Et nous, notre ligne, c'est quand il n'y a pas d'affaire en cours, quand il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'affaire. Et donc, voilà. Et on le défend, etc. » Mais moi, ce qui me choque aussi, c'est cette façon de dire « Il faut prendre en compte la parole des femmes. » Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ce qu'on entend généralement, c'est ce qu'ont promu les néo-féministes, c'est-à-dire qu'une femme qui parle, elle a forcément raison, elle dit forcément la vérité, et elle est donc victime a priori. Donc, ça veut dire qu'on nie complètement le parcours judiciaire.
C'est ça. Et finalement,
et ça, ça m'a gênée un peu, qu'effectivement, la Première ministre dise « il faut prendre en compte la parole des femmes ». Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire, à ce moment-là, M. Abad est coupable ?
En fait, évidemment, il faut prendre en compte la parole des victimes.
Mais ce qu'elle avait dit, c'était pas tant qu'il fallait prendre en compte, c'était qu'il fallait protéger cette parole et que, justement, la voie de la judiciarisation et le fait que ça se passe devant la justice et que ce soit donc des juges qui arbitrent et qui aient une enquête, est une façon de protéger la parole.
Oui,
c'était
tout
plus
à fait
ça, son propos.
Oui, mais c'était ambigu. Et cette ambiguïté, elle a été renforcée notamment par Mme Bourguignon.
Qui a refusé de prendre parti.
Qui a refusé de prendre parti et qui a dit, je crois vraiment texto, je prends la défense de toutes les femmes. Qu'elles soient menteuses ou pas, non. Il y a des femmes qui mentent, il y a des femmes qui sont des criminels, il y a des femmes qui sont tout.
Et
parce qu'on peut être tout et on n'est pas forcément victime.
On peut se demander voilà. si on a raison gardée ou si force est restée à la loi et à la justice ou si c'est parce qu'il y a eu une espèce de victimisation contre une autre victimisation, la victimisation des femmes et comme vous le disiez, la victimisation des personnes handicapées. Alors peut-on encore aborder avec nuance sur les réseaux sociaux ces sujets, notamment relatifs aux violences morales et physiques subies par les femmes dans notre société, ou est-ce que le tribunal du net n'est pas depuis MeToo déjà un tribunal qui tranche à l'avance ? On en parle avec une femme qui est avant tout une philosophe éclairée et éclairante, avec vous, René Frigosi, et avec vous, mesdames aussi. C'est sur Sud Radio, tout de suite après.
Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens.
Alors, autant il y a l'affaire Abad, autant il y a aussi une synchronicité assez étrange, assez curieuse, et peut-être qu'il n'y a pas du hasard, de toutes ces affaires qui font droit justement aussi à la parole des femmes victimes. L'affaire PPDA, l'affaire
De l'autre côté de l'Atlantique, on a quand même Johnny Depp et Amber Heard.
Exactement. Donc ces affaires arrivent
en
même temps.
On aura les résultats du procès d'ailleurs en courant de semaine prochaine. Là, les derniers plaidoiries sont terminés.
Signe des temps ou pas, on va se poser la question. Mais autant on ne peut que se féliciter que la société, les sociétés, écoute davantage la souffrance des femmes et que celle-ci puisse s'exprimer aussi facilement et beaucoup plus facilement qu'avant. Autant, dès qu'on prononce le terme, par exemple, violence faite aux femmes, on a l'impression qu'on prononce une formule incantatoire magique qui fait que tout ce que vous allez dire après, c'est comme si vous alliez marcher sur un fétiche dans une tribu en Nouvelle-Guinée. Donc faire très 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 attention. Donc je vous pose la question, René Frigosi, parce que vous avez vécu un autre féminisme dans une autre génération et on entend aujourd'hui dire que la parole était verrouillée. Mais vous qui avez appartenu au MLF des années 80, est-ce que vraiment les femmes d'alors se laissaient marcher sur les pieds ?
Des années 70. Moi, à 16 ans, j'étais au MLF. J'ai participé d'ailleurs à cette grande manifestation en novembre 71 pour la légalisation de l'IVG. Et j'étais jeune, mais déjà féministe, et je n'ai rien renié de nos combats. On s'amusait beaucoup, effectivement, on se moquait beaucoup des hommes, on avait des chansons très anti-hommes, mais tout ça était vraiment dans beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, et surtout dans un esprit de libération sexuelle. Or, aujourd'hui, ce qui me frappe avec ce que moi j'appelle...
On n'a jamais été aussi libre.
Les néo-féministes, mais en fait...
C'est un côté puritain.
Elles sont, exactement. Exactement. Et on n'est vraiment plus dans cette atmosphère libertaire. On est soit absolument anti-homme, soit anti-sexe, soit strictement monogamique. Mais on est vraiment dans du politiquement correct, quelle que soit la ligne. Et on n'est plus du tout dans cette liberté de penser, dans cette libre disposition de son corps, dans cette légèreté des années 70. Bon, donc évidemment, je parle avec nostalgie, mais je pense que justement, ces jeunes femmes,
voilà,
parce qu'aujourd'hui... Non, pas du tout.
Les psychologues décrivent très bien ces phénomènes de sidération, le fait que les victimes n'arrivent pas à formuler tellement elles sont traumatisées,
etc. Non, mais qui a eu des agressions sexuelles, des viols, du harcèlement, bien sûr. Et nous avons lutté contre, effectivement, et surtout, on avait un grand combat qui était le combat des femmes battues. Et aujourd'hui, ça dure encore. Donc c'est vrai que, effectivement, la situation ne s'est pas complètement améliorée, mais j'ai quand même le sentiment que ces jeunes femmes ne réalisent quand même pas le chemin parcouru et n'ouvrent pas des perspectives optimistes en disant « nous reprenons ce combat, nous le continuons,
il y a pas de continuité,
tout n'est pas réglé, effectivement, et il n'y a pas non plus un objectif d'amélioration. On a le sentiment que les femmes sont victimes de toute éternité et qu'elles le seront toujours. Et ça, c'est vraiment terrible.
Désespérant.
J'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas une notion quand même, mais je demande, de hiérarchie ou dans le cadre professionnel? Par exemple, on parlait de PPDA tout à l'heure. Lorsque ces jeunes femmes qui travaillaient à TF1 étaient invitées dans son bureau à titre professionnel et qui se retrouvaient draguées, embrassées ou plus... qu'il y ait viol ou pas viol, c'est-à-dire est-ce qu'il y a l'emprise sur la hiérarchie compte
bien
légalement
entendu. Donc bien non mais légalement moi je suis pas d'accord parce que je pense que chaque individu reste libre et maître de son destin. Et donc, lorsque statutairement, dans la société, un individu n'est pas un esclave, tout individu majeur, effectivement, est libre de son destin. Alors, c'est vrai, bien entendu. Lorsque vous avez une pression, mais c'est comme la pression économique, je veux dire, vous êtes parfois contraint de prendre des jobs qui ne vous conviennent pas. Vous êtes contraint dans la vie. On est contraint à beaucoup de choses, mais on est quand même libre de le faire ou de ne pas le faire.
De dire
donc,
non.
Bien sûr, on est libre de dire non. Alors oui, il y a des conséquences. Et c'est scandaleux qu'il y ait des conséquences négatives à votre non, à l'avance.
Et la loi est aussi là pour protéger les faibles contre
exactement.
Les forts.
Exactement. Mais si vous voulez, ça n'est pas propre à une relation homme-femme d'un point de vue de nature des sexes. C'est effectivement une position sociale. Lorsque vous avez plus de femmes qui sont en position d'autorité, vous pouvez aussi avoir de la part des femmes un comportement qui va mettre sous emprise morale des subordonnées, que ça soit pour obtenir des faveurs sexuelles ou autre. Donc, si vous voulez, évidemment...
Est-ce que ça veut dire qu'à l'avènement de MeToo et de la discrimination positive, de la parité, on va se retrouver avec de plus en plus d'agresseurs femmes?
Ben, écoutez, j'allais vous dire, je l'espère. Parce que moi, j'ai toujours...
Moi
non, mais vous avez raison, bien sûr, je ne l'espère pas. Mais oui, non, mais il faut préciser aujourd'hui, parce que le second degré n'existe plus. Donc, effectivement, il faut toujours faire révérence à des... voilà, par des paroles rituelles, comme vous le disiez, Guillaume. Donc, effectivement, moi, j'ai toujours revendiqué pour les femmes le droit à la bêtise et à la méchanceté. Parce que nous ne sommes pas
des
plus
saintes.
Gentilles par essence.
Des anges.
Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas douces forcément. Moi, vous savez, mes idoles femmes, ce sont les combattantes kurdes en battle dress qui se défendent contre l'islamisme. Ça, c'est des femmes. Oui, elles tuent. Elles aussi, elles en sont capables.
Mais pas de la
parce que
oui,
nous
mais
sommes
pas de la
capables
même manière.
De tout.
Vous pouvez pas nier qu'il y a des
différences. Vous savez que Greta Thunberg,
vous pouvez pas nier qu'il y a des différences fondamentales quand même entre les hommes et les femmes dans le comportement, dans les caractéristiques. La douceur, elle est attribuée à la femme pour certaines raisons qui sont légitimes.
Vous avez des différences sexuelles. Vous avez des formes de sexe, des fonctions sexuelles qui sont différentes. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, voyez, quand je dis sexe... Oh, non, parce qu'on parle oui. plus de sexe, hein, on parle de genre. Mais le genre, c'est pas pareil que le sexe. Le genre, ça existe, c'est un concept que je ne renie pas du tout. Mais moi, je vous parle de différences sexuelles. Or, aujourd'hui aussi, on nie même les différences sexuelles. Enfin, on est vraiment dans un monde de fous, de perte de sens, et où les mots n'ont plus de sens.
Mais ce donc, que vous nous disiez, pardon de vous interrompre, mais René Frégosi, c'est que dans le combat féministe que vous avez connu, il y avait l'idée de défendre le féminin en tant que féminin, dans un monde où il y avait du féminin et du masculin, et il y avait pas, et ça se faisait de manière assez festive et de manière assez, on va dire, parce que quand on se libère, en général, on est joyeux. Et là, vous nous dites que finalement, il y a une volonté de, un peu puritaine, d'indiscrimination sexuelle, et
non,
en plus de vengeance.
Non, mais c'est-à-dire, c'est très complexe, parce qu'en fait, au contraire, vous avez... si vous voulez, le droit à la différence, qu'il y ait des différences entre les hommes et les femmes, entre le sexe masculin et le sexe féminin, pour moi, c'est une évidence. Or, ça ne l'est pas pour
mais
toutes.
Mais c'est ça qui gêne aujourd'hui,
oui,
non ?
Mais non, mais oui, c'est le sexe qui gêne, mais en fait, on en rajoute sur le genre. Et si vous voulez, le problème, c'est que au sein du MLF, vous aviez toujours deux courants. Il y avait le courant des différentialistes qui revendiquaient des droits différents au nom du droit à la différence. Et on voit aujourd'hui que c'est cette dérive-là qui est devenue hégémonique, dominante, alors que nous autres, nous étions pour le droit à l'égalité. L'égalité des droits entre qu'on soit différent ou pas, on avait... On revendiquait l'égalité des droits. Or, le différentialisme nous conduit paradoxalement aujourd'hui à nier la différence sexuelle physiologique. C'est extrêmement complexe à comprendre. Oui. C'est pour ça que c'est un mouvement socio-psychologique très complexe. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que la différenciation sexuelle ou de genre amène aujourd'hui à une revendication de différence des droits. Et ça, c'est... Puisque vous voyez, les droits
en fait,
des victimes...
Qu'on est en train de,
absolument. Le droit des victimes supposées est supérieur... à l'innocent présumé. C'est vraiment, on est dans l'inversion des valeurs, dans l'inversion et dans le changement de sens des mots, des concepts.
René Frégosi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Comment je n'ai pas fait carrière au PS chez Ballon » et bien de bien d'autres ouvrages truculents et subtils. On va à présent parler d'un sujet infiniment plus tragique, un phénomène qui, contrairement à la guerre symbolique des sexes américaines, n'a pas encore complètement envahi la France, c'est les tueries de masse dans les écoles. Pourquoi certains jeunes ouvrent le feu sur d'autres jeunes aux États-Unis ? On en parle avec un avocat qui est aussi le président de France Amérique, Jean-Claude Beaujour. C'est tout de suite après.
Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens.
Bonjour Jean-Claude Beaujour, soyez le bienvenu sur Politique sous influence.
Bonjour.
Nous vous invitons car vous êtes brillant, vous êtes avocat. Vous exercez aussi bien votre profession dans un pays que vous connaissez bien, les États-Unis, et que vous aimez bien aussi puisque vous présidez le cercle France-Amérique. Mais avant de chercher à comprendre avec vous cette folie américaine, des tueries dans les écoles. Je voulais demander à notre jeune amie Juliette de nous éclairer sur le rôle des réseaux sociaux dans la tragédie qui a endeuillé le Texas.
Le tueur du Texas, Salvador Ramos, avait bien des comptes sur les réseaux sociaux. Il avait un compte Instagram sur lequel il avait posté quelques jours avant les faits des photos d'armes. Sur laquelle, avec un compte avec lequel il communiquait avec une jeune femme de Los Angeles qu'il connaissait à peine, qu'il identifiait sur des photos d'armes, avec qui elle avait donc une conversation extrêmement bizarre où il lui donnait des indices sur les faits qu'il s'apprêtait à commettre.
Et c'était combien de temps avant ?
C'était quelques jours avant et le jour même.
Et donc, le jour même, une détection,
tout à fait, c'est ce que j'aimerais savoir. Et le jour même, il est aussi allé sur Facebook. Il a annoncé et commenté ses méfaits en direct. Il a dit « Je vais tuer ma grand-mère ». Ensuite, il a réécrit un message « J'ai tué ma grand-mère ». Puis il est revenu, il a dit « Je vais aller dans une école primaire ». Donc tout était annoncé. Comme c'était en direct, je ne sais pas si la police aurait eu le temps, aurait eu le temps d'agir. Mais si ce garçon, qui avait quand même un peu le profil parfait, excusez-moi de vous le dire, avait été surveillé au préalable, peut-être, l'alerte aurait-elle pu être donnée ?
Ça, c'est une première question qu'on peut poser à Jean-Claude Beaujour, parce que finalement, d'ailleurs, ça a été souligné par Donald Trump hier à la conférence de la NRA. Il a parlé de la santé mentale aux États-Unis, qui est en déshérence, d'une certaine façon, les soins mentaux. Il n'y a pas des choses à faire en matière de prévention de la santé mentale dans ce pays, avant qu'on parle des armes ?
Alors, j'ai entendu la déclaration du président de l'ancien président des États-Unis, qu'il faut prendre de manière beaucoup plus large, parce que j'ai le sentiment qu'il a un peu restreint son intervention. Vous avez dit qu'on parlera des armes, donc on parlera des armes tout à l'heure. Mais il est évident que le trafic d'armes, l'utilisation des armes, mis sur des populations parfois fragiles, favorise l'explosion. Mais attention, c'est pas parce que les populations sont fragiles qu'il y a ces attaques massives qui sont en croissance. La politique de santé, je pense que nous en avions parlé sur vos antennes il y a quelques mois, lorsqu'on disait que l'Amérique était fracturée parce que la politique de santé est mise à mal. Et c'est le même Donald Trump, pardonnez-moi, mais c'est plutôt côté républicain, qu'on avait freiné l'Obamacare, qui n'était pas parfait, mais qui pouvait être amélioré. C'est aussi là-dessus, pas que Donald Trump, mais il y avait les républicains, aussi bien que les démocrates, depuis 20 ans, qui ne sont pas très brillants sur la politique sociale américaine. Vous savez qu'en fonction des groupes d'appartenance de population, ben on peut pas se soigner correctement, on n'habite pas forcément un quartier où il fait bon vivre, le trafic de drogue s'intensifie. Les inégalités sont considérables aux États-Unis. Elles le sont déjà en Europe, mais elles le sont de manière explosive aux États-Unis, parce que paradoxalement, quand vous voyez les fortunes qui s'amassent, tel appartement dans une tour avec un nom bien connu peut coûter 10 millions de dollars et vous avez preneur, et vous avez au pied de l'immeuble, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Moi je vois bien que même si à Washington ou bien vous voyez une ville comme San Francisco où le prix du logement a explosé dans la Silicon Valley, vous avez beaucoup de personnes qui sont pauvres. Donc tout cela ne favorise pas.
Ça peut expliquer la culture de la violence, parce qu'il y a quand même.
Ben vous savez, je vais vous dire. L'explication, c'est comme toute maladie grave. Il n'y a pas un élément qui explique. Il y a un faisceau d'éléments. Lorsque vous avez au-dessus de chez vous, parce que le type qui est pauvre ou celui qui perd son emploi, il n'a pas la garantie, il n'a pas les aides que l'on peut avoir en France ou en Europe d'une manière générale. Il n'y a pas ce schéma social qui fait que on compresse au maximum celui ou celle qui est en difficulté. Vous savez, la violence, si vous étiez sans logement, sans emploi, sans possibilité, par exemple, d'envoyer vos enfants à l'école ou dans de bons établissements, vous savez, en tout cas, c'est un terreau pour la violence. Et puis, qui dit pauvreté, difficultés personnelles, dit aussi, bah évidemment, vous n'habitez pas un quartier correct, vous habitez forcément un quartier qui est difficile. Moi, je connais bien Newark, puisqu'on y a eu notamment, on a passé en revue quelques états difficiles. Ben, si vous prenez le train entre Washington et puis New York, ben vous passez au parfois dans des quartiers, le train passe dans des quartiers où vous dites c'est un quartier en difficulté.
C'est absolument. Mais est-ce que finalement...
Mais je ne suis pas médecin, attention pour vos téléspectateurs, vos auditeurs, je ne suis pas médecin, il s'agit d'une réflexion avec le recul nécessaire que suppose ce type d'affaires.
On va reprendre l'attachement des Américains aux armes. Disons que c'est un phénomène absolument massif, que la première cause par exemple de mortalité pour les moins de 18 ans aux États-Unis ne sont pas les accidents de la route, mais c'est des blessures et tueries par balles. Et il y a des paquet. Bon, il y a les suicidés, je crois que c'est 60% des gens qui meurent par arme à feu aux États-Unis. Il y a les gangsters alimentés par le terreau de pauvreté dont vous parliez, effectivement. Mais il y a deux catégories de meurtres américains avec des armes à feu bien particuliers à ce pays. C'est les tueries dites raciales d'un côté et de l'autre côté, cette espèce de contre-culture complètement obscène et folle qui consiste à aller faire un carnage quand on est mal dans sa tête, quand on a envie de se suicider. Maintenant, il y a une sorte de figure de style, il faut aller tuer dans une école, à la mode Columbine, mettre ça en scène. Pour vous, les réseaux sociaux, la sous-culture américaine, c'est un facteur aggravant de ça ?
Alors, je ne parlerai pas de sous-culture parce qu'il y a un peu un jugement de valeur. Je dirais simplement, c'est pour surtout m'attaquer au vrai sujet. C'est vrai que les réseaux sociaux sont un phénomène. C'est vrai que nous vivons aux États-Unis, on l'a aussi en France, mais c'est très fort aux États-Unis, avec une forte polarisation. Il y a les tenants du bien et les tenants du mal. Souvenez-vous, malheureusement, et je l'avais dénoncé, lors de la convention d'investiture du président Trump, j'avais été effectivement choqué que le président dise, à l'époque il était président candidat, donc c'est le président, ceux de l'extérieur qui étaient des démocrates, nos ennemis. Vous savez, ça entretient la violence et il m'est arrivé de dire que vous le savez bien, Guillaume Bigot, moi, les gens avec lesquels je ne suis pas d'accord, ce ne sont pas mes ennemis, ce sont les Français comme moi, nous ne partageons pas les mêmes idées, nous nous combattons politiquement, mais ce ne sont pas mes ennemis. À partir du moment où, effectivement, au plus haut niveau...
La démocratie, c'est le conflit des idées, pas des hommes.
Au plus haut niveau, on dit les ennemis. Alors, il n'y a pas que Donald Trump, attention, tout ça est né bien avant, mais vous parlez d'ennemis... Vous êtes des tenants avec un fond religieux, un fond de doctrine, donc il y a les bons, les méchants, et chacun de son côté considère que l'autre est un ennemi.
Et le mal.
Que fait-on face à l'ennemi ? Comme si on était en guerre. Eh bien, vous savez, on est dans une dramatique situation. Quand on parle de guerre, on parle d'armes, on tue, malheureusement, et donc c'est ce qui se passe. Et une personne qui n'est pas bien, sans le justifier, je dis bien sans le justifier, eh bien, on a ce type de réaction explosive, parce que c'est ce qu'il voit. C'est ce qu'il voit à la télévision, c'est ce qu'il voit dans les jeux vidéo, c'est ce qu'il voit partout, c'est ce qu'il voit dans l'opinion publique. Les gens s'affrontent comme s'ils étaient des ennemis.
Alors ça, c'est vraiment intéressant. Tout ce que vous avez dit est intéressant, mais là, il y a quelque chose d'assez terrifiant même, au-delà d'intéressant. C'est qu'on se dit qu'il y a plus d'armes aux États-Unis qu'il y a d'Américains, de loin, je crois. Et c'est un pays qui a connu la guerre civile, 600 000 morts, il ne faut jamais l'oublier. Ça a connu que c'est un pays qui s'est fait sur la violence, de la conquête de l'Ouest, de l'esclavage, etc. D'ailleurs, on parle du deuxième amendement, mais dans le deuxième amendement, il est question de milices bien ordonnées, qui étaient à la fois des milices contre les royalistes anglais, mais aussi des milices pour aller rattraper les esclaves, etc. Sauvé. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Michael Moore où il essaye d'expliquer le phénomène des armes, mais il dit en fait, parce qu'il dit au Canada, il y a autant d'armes qu'aux États-Unis, mais aux États-Unis, ils s'en servent. Alors pourquoi ? Il dit parce que dans notre pays, il y a une névrose de la peur. Tout le monde a peur de tout le monde. Est-ce que pour vous, il peut y avoir une autre guerre civile en Amérique ?
Alors, tout d'abord, on ne peut pas le souhaiter. Non, mais c'est important pour la clarification du débat, on ne peut pas le souhaiter. Je le souhaite pas parce que ça voudrait dire, pour des tas de raisons, y compris personnelles, que ça serait dramatique. Ça serait le cauchemar. Tout peut toujours arriver dans l'absolu. Moi, à votre remarque, oui, la peur fait que le réflexe, c'est je vais me défendre. Écoutez ce que dit le président Trump et vous verrez à quel point il peut y avoir. Je dis lui parce qu'il s'en est expliqué. Je pourrais prendre d'autres républicains ou d'autres personnalités américaines, mais aujourd'hui, ce jour, il est le plus connu par rapport à son intervention d'hier soir. Il dit bien, il faut que nous nous protégions contre le... Il dit pas le mal, mais il dit, il y a un mot comme à peu près très, très voisin, contre tous ceux qui tentent de nous détruire. Il y a tel sentiment que le premier réflexe est de dire, eh bien, nous allons individuellement nous défendre parce que ben, les forces de l'ordre, la police n'est peut-être pas capable, je n'en sais rien.
Voire demande aux gens de s'armer, d'ailleurs.
Mais oui, et c'est ce que j'allais dire, voire demande aux gens de s'armer, alors que le premier réflexe que nous avons dans un État structuré, on s'en remet à la police. Moi je veux dire, j'ai séjourné dans le sud des États-Unis et je vis aussi dans de grandes villes américaines. Il ne me viendrait pas l'idée d'aller acheter une arme pour pouvoir me défendre. Alors certes, là encore, on va dire, c'est pas dans les quartiers les plus sensibles, etc. Mais même là, il ne me viendrait pas à l'idée d'aller acheter une arme pour me défendre. Je pense que le réflexe français, avec un État central fort qui est en charge du régalien, c'est pas votre premier réflexe. Aux États-Unis, c'est « je vais me défendre ». Il y a cette culture-là, et vous avez bien dit, c'est aussi un pays qui s'est bâti sur la violence, parce qu'il s'est bâti sur l'esclavage, la ségrégation, et donc automatiquement, qui a été extrêmement violente, qui avait, et jusqu'à une période récente, encore au XXe siècle, il y avait, on poursuivait on, le lynchage, on faisait faire justice par soi-même, etc., etc. Donc oui, il y a une violence que nous avons beaucoup moins dans nos pays européens.
Bon, la démocratie est au bout du bulletin de vote et pas au bout du fusil, c'est très important de rappeler. Merci Jean-Claude Beaujour. Je rappelle, vous êtes l'auteur de « Et si la France gagnait la bataille de la mondialisation ?», un excellent bouquin chez Descartes et compagnie. Merci Juliette, merci Véronique, merci cher René Vrécosi. Bon week-end à tous. Politique sous influence est à présent terminée, mais vous pouvez nous retrouver en podcast sur les réseaux sociaux. Et à présent, on va parler auto. Covoiturage et assurance sont dans une auto. Alors, est-ce que c'est compatible ou pas? On en parle avec Laurence Perrault et Jean-Luc Moreau, tout de suite sur Sud Radio.
Merci à vous.
Merci.